La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Esprit libre avec Maître Sophie Obadia et Jean-Marie Colombani. Bonjour tous les deux.
Bonjour, bonjour David.
Jean-Marie Colombani de Slate, ancien directeur du Monde, que vous retrouvez demain à 8h, je le rappelle, pour commentaire avec Jean-Claude Casanova. La France et l'impôt, une histoire d'amour vache qui dure depuis longtemps et qui fait de notre pays le plus fiscalisé d'Europe. Emmanuel Macron a décrété une pause dès son élection, la promesse de ne pas les augmenter, mais le débat revient. Jamais il n'a été aussi vif, et notamment dans la majorité macroniste. Comment vous l'expliquez? Comment vous expliquez que le réflexe quasi pavlovien face au déficit public, c'est tout de suite d'augmenter les impôts dans un pays qui est champion d'Europe?
De toute façon, on est dans un pays qui est non pas le champion des impôts, mais le champion de l'invention fiscale. Je veux dire, l'imagination fiscale en France est sans limite. Donc ça, c'est une des grandes traditions de l'administration française. Ça me fait penser que Michel Rocard, quand il était Premier ministre, il a donc inventé la CSG. Mais la CSG, dans l'esprit de Michel Rocard, c'était, tenez-vous bien, devait se substituer à l'impôt sur le revenu. Et ça ne s'est jamais fait. Et donc ça, c'est typiquement français. Au lieu de substituer la CSG à l'impôt sur le revenu, on a gardé la CSG et gardé l'impôt sur le revenu. C'est presque culturel. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est très simple. C'est à partir du moment où vous devez demander au pays de faire un effort. Si vous demandez de faire un effort, il faut que, pour qu'il soit accepté, il faut qu'il soit équitablement réparti. Il faut que la perception soit juste. Pour que la perception soit juste, il faut évidemment faire appel aux impôts et ne pas tout faire peser sur les entreprises, etc. Donc il faut que ce soit équitablement réparti. C'est comme ça que revient le débat sur les impôts et revient le débat sur l'impôt dit... Alors ça, c'est la gauche dira les riches, d'autres diront les super-profits ou les profits exceptionnels. Voilà, mais c'est ça la racine du débat d'aujourd'hui, c'est celle-là.
Jean-Marie Colombani, je vous sens un peu résigné fiscalement, alors que vous auriez pu me répondre, mais non, pas les impôts, mais les économies budgétaires. Il y a tout un tas de domaines où la France dépense trop, dépense mal, où l'évaluation des politiques publiques, où la Cour des comptes estime qu'on jette l'argent par les fenêtres. Sophie Obadia, vous répondrez après, Jean-Marie.
Oui, je suis assez d'accord avec vous, David. Effectivement, je ne pense pas qu'il faille
on
se...
Vous allez vous disputer.
On va pas se disputer, mais j'entends qu'effectivement, nous sommes très très créatifs, mais je ne vois pas là où on va encore aller plus loin. Les entreprises, c'est exclu, visiblement. Les classes moyennes, c'est exclu également. Nous savons que une minorité aujourd'hui de Français paie l'impôt sur le revenu. Donc, qu'est-ce qu'on va encore inventer? Alors, on peut raboter des dépenses, on a bien compris, par exemple, les emplois à domicile. On peut effectivement chercher du côté du chômage, comme l'a précisé Gabriel Attal. Mais réellement, quand j'entends la classe politique dire « Ok pour les impôts », lesquels, comment, techniquement, on n'en sait rien. C'est donc un dogme. C'est revenir à une pression fiscale toujours accrue comme un dogme. Je n'entends pas, du côté de ceux qui veulent augmenter les impôts, la moindre proposition. Donc c'est là où je me dis « Mais alors en fait, c'est un puits sans fond. On ne s'arrête jamais de créer un impôt dans ce pays ».
Non, mais ça, vous avez raison. Ça, c'est presque comme un arrêt réflexe. Mais simplement, on est dans une situation où, dans la réalité, on a besoin de croissance. Le vrai problème, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce déficit soudain? D'ailleurs, le vrai reproche qu'on puisse adresser au gouvernement, c'est de n'avoir rien vu venir. Et donc de n'avoir pas pris des précautions pour colmater les brèches lorsqu'elles se produisaient. Mais une fois cela posé, on a besoin de croissance parce que c'est la croissance qui dissout la dette en fait. Et par ailleurs, le grand problème d'aujourd'hui, c'est quand même le décrochage de l'ensemble de l'Europe par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, la richesse s'est accrue de façon très spectaculaire. En Europe, elle stagne. Et donc, c'est ça le problème. Mais ça veut dire une nécessité d'investissement et non pas une nécessité d'une politique d'austérité. On est devant cette contradiction-là. Par ailleurs, sur les impôts, c'est évidemment sur la classe moyenne et la classe moyenne supérieure que pèse l'essentiel de l'effort fiscal. Donc, on ne peut pas penser que ça continue. On ne peut pas penser qu'on en rajoute. En revanche, ce que tout le monde a noté, c'est les profits exceptionnels réalisés dans les mois précédents par les grandes entreprises françaises. Et on est heureux qu'il y ait des grandes entreprises françaises, on est heureux qu'il y ait des champions mondiaux français qui fassent de gros bénéfices. Mais après, vous pouvez en effet créer une sorte de contribution exceptionnelle qui fasse que vous faites... pour faire face à une passe un peu difficile. Donc, il y a mille et une façons de
mais Jean-Marie, je vais vous taquiner, mais à partir de quel niveau la réussite des entreprises françaises et notamment multinationales à l'étranger devient exceptionnelle et exceptionnellement insupportable aux taxeurs nationaux?
Non. Oui, non, mais après, ça, c'est de l'idéologie quand vous dites insupportable aux taxeurs nationaux, c'est de l'idéologie parce qu'il y a ceux qui, par idéologie, veulent de toute façon taxer les grandes entreprises. Mais les super profits, ils se mesurent. Il suffit de regarder l'indice boursier, il suffit de regarder les records qui se passent à la bourse, il suffit de regarder cela pour savoir qu'il y a ici des profits exceptionnels. Mais ça ne réglera pas la question de fond. La question de fond que vous posiez, c'est celle de la réforme de l'État, en fait. Mais la réforme de l'État, vous la faites comment dans un pays qui sort de la crise des gilets jaunes? Qu'est-ce qu'on a vu au...
La crise du Covid.
Surtout le Covid.
La crise du Covid, mais la crise d'abord des gilets jaunes, parce que ça a été quand même une révolte qui montrait que quand vous voulez toucher à ceci ou cela de notre système, vous provoquez... Il y a eu les bonnets rouges, il y a eu les gilets jaunes, maintenant il y a les bonnets jaunes...
Il y a le
jaunes,
Covid et quoi qu'il en coûte. Etc. Sophie Obadia, voilà. La notion de super profit, c'est une invention de l'extrême gauche.
Ah, clairement, oui, clairement, et qui commence à entrer dans le discours officiel sans la moindre difficulté.
Il y a une notion juridique, la notion juridique des profits, des résultats, j'imagine, elle existe dans le plan comptable.
Non, c'est une appréciation politique, économico-politique. Mais ce qui, moi, finit par me gêner, c'est qu'on est en train de déconnecter donc les super-profits des entreprises de l'ensemble des Français qui, rappelons-le, ne paient pas tous l'impôt. C'est une problématique. Je sais que c'est un tabou de parler de ça, mais réellement, est-ce que on n'est pas en train de fabriquer des super riches qui sont, voyez, dans en ligne de mire, et puis tout le reste qui peut-être retournera au travail parce qu'on sait que le travail peut produire effectivement des fonds supplémentaires. Et en réalité, on déconnecte les deux. Et je pense que ça ne fait plus sens. Ça finit par devenir deux mondes qui se regardent. La France et les super-profits. Ça n'a pas beaucoup de sens pour notre histoire française, je pense.
C'est la grande question de la façon dont vous partagez la taxation du travail et la taxation du capital.
Oui.
Quand François Hollande était président, il a voulu rapprocher la taxation du capital de la taxation du travail.
Oui.
Donc, et ça a donné le choc fiscal. Et le choc fiscal, ça a donné la plus forte impopularité qu'ait connue un président de la République. Donc, vous voyez, c'est difficile tout ça. Et Emmanuel Macron est revenu en arrière. C'est-à-dire, il a baissé les taxes sur le capital pour justement permettre de relancer la machine et ainsi de suite. Donc, on est dans un pays qui est évidemment extrêmement sensible à tout cela. Et c'est vrai que le serpent de mer qui est la réforme de l'État, qui est absolument nécessaire, qui conviendrait à David Abiker, parce que lui, il verrait évidemment une façon de moins dépenser, mais sauf que, encore une fois, vous vous heurtez au corps social, c'est très difficile,
bien sûr.
C'est pour ça que Jacques Chirac n'a pas fait grand-chose pendant ses mandats, parce que justement, il voulait préserver
Jean-Marie.
L'harmonie du corps social.
Jean-Marie, je vous lis un extrait.
C'est ça, les politiques, c'est ça, ils sont à faire
bien
avec
sûr.
La réalité.
La réalité, par exemple, la newsletter du soir de Dominique Seux, éditorialiste aux Échos, qui publiait hier donc sa newsletter, je vous en lis un extrait. Comment le dire aux Français qui se disent sincèrement outrés par ce qu'ils considèrent comme de l'injustice fiscale? Les contribuables aisés échapperaient à l'impôt, à entendre le bruit général. Il suffit pourtant de lire les bilans des impôts pour apprendre que les 10% des foyers fiscaux les plus aisés acquittent 75% du produit de l'impôt sur le revenu, soit 60 milliards d'euros. Pour les 1%, l'impôt moyen est de 67 000 euros. C'est pas mal quand même. Là, il y a un vrai sujet de rapport à l'impôt. C'est pour ça que la France, pour ça qu'en France, on est si prompt à dire les autres ont qu'à payer plus d'impôts.
Voilà. Et je pense que la logique de Gabriel Attal, c'est de dire le rapport à l'impôt est parallèle au rapport au travail. Il y a un lien. Effectivement, il a raison d'en parler. Et de dire que l'augmentation des cotisations, remettre les gens au travail, ça peut être aussi une solution pour faire groupe, pour faire qu'il y ait une société qui accepte de travailler, de payer l'impôt, évidemment proportionnellement, mais tous ensemble. Or, on est en train de déconnecter les très riches du reste du monde.
J'ai une question à vous poser qui relève de l'habileté politique. Et je reviens à l'intervention de Gabriel Attal mercredi soir, qui à un moment donné devait apporter des réponses sur les déficits. Oui. En apportant une réponse sur les déficits, il explique qu'on va peut-être indemniser moins longtemps les chômeurs. Oui. Et là se mélange deux choses, le retour à l'emploi et puis la nécessité de résorber les fameux déficits. Fallait-il mélanger les deux questions au risque de s'attirer les foudres de la gauche qui disent aujourd'hui, peut-être à tort ou peut-être à raison, vos économies, vous les faites sur le dos des chômeurs.
Mais pas seulement de la gauche, parce que le problème vient de quoi ? Rappelez-vous, il y a très peu de temps, il y avait un ministre du Travail qui s'appelait Dussopt. Et qui avait très bien expliqué que quand le chômage baisse, que la croissance est de retour, alors on peut ajuster à la baisse les prestations versées aux chômeurs.
Parce on a vite oublié d'ailleurs.
Il y a de moins en moins de chômeurs, donc on peut jouer sur la durée d'indemnisation, on peut même jouer sur le montant de l'indemnisation du chômage. Voilà, ça c'était la doctrine. Arrive Gabriel Attal dans une période où le chômage recommence à augmenter et où la croissance est en panne, enfin globalement en panne, même si elle n'est pas nulle. Eh bien, que dit-on à ce moment-là ? On dit on va dans cette période-là baisser les prestations chômeurs, baisser la durée d'indemnisation et baisser les prestations. C'est le contraire de la doctrine même du gouvernement
baisser
précédent.
Baisser les prestations, c'est pas sûr.
Oui, mais c'est le contraire de ce... Donc, on fait exactement le contraire de ce qu'on nous avait dit qu'il fallait faire. C'est là que vient déjà une première gêne. Parce que tout d'un coup, on rentre dans une doctrine qui... Et par ailleurs, est-ce que... Enfin, vous en avez été témoin à cette antenne. On a entendu le Secours catholique, on a entendu le Secours populaire, on a entendu les Restos du Cœur nous expliquer qu'ils étaient face à des cohortes de nouvelles personnes qu'ils ne connaissaient pas, qui viennent au Restos du Cœur, qui viennent, etc. Parce que la pauvreté, il y a des secteurs de la société où on est passé de la précarité à la pauvreté. Et donc là, vous allez ajouter à cette pauvreté, vous allez ajouter à cette précarité. Ça n'est pas le bon moment de faire cela. C'était le bon moment quand Dussopt le disait, c'est-à-dire quand la croissance était de retour, quand le chômage reculait. Là, vous pouvez agir sur l'indemnisation du chômage, mais maintenant, c'est à contre-temps et c'est dangereux.
Sophie Obadia, est-ce qu'il y a un risque politique en termes de lisibilité, parce que ça fait des années qu'on dit on a un problème avec le chômage des jeunes et avec le chômage des seniors. Donc il faut faire revenir les gens à l'emploi. On dit aussi il y a des tensions sur le marché du travail, il y a des secteurs entiers qui trouvent pas de gens à embaucher, donc il faut les accélérer leur retour à l'emploi. Le raccourcissement de la durée d'indemnisation est un moyen de faciliter, d'engager ce retour à l'emploi. Mais alors, l'intégrer dans un dispositif permettant de réduire les déficits, est-ce que c'est de bonne politique ?
Je suis assez d'accord avec Jean-Marie. Effectivement, ça n'est pas le bon timing. Parce que tout ça semble finalement assez coercitif et assez punitif. Bon, en même temps, l'efficacité des mesures sur la réduction, par exemple, de la durée d'indemnisation, on a tous su que ça n'était pas d'une grande efficacité. Peut-être que c'est plutôt l'allocation des droits, c'est-à-dire 6 mois sur les 2 dernières années suffisent de travail, 6 mois de travail suffisent pour être allocataire des indemnités chômage. Est-ce que ça, c'est pas assez anormal, notamment si on compare avec les autres pays? Oui, effectivement, c'est un contretemps. C'est un contretemps, je suis d'accord avec vous.
On parlait de l'impuissance budgétaire de la France, on va parler d'impuissance à appliquer les règles de la laïcité dans les établissements scolaires. Dernier exemple en date, le départ en retraite anticipé, et non pas une démission comme on a pu l'entendre ici ou là, mais un départ en retraite anticipé du proviseur du lycée Maurice Ravel dans le 20e à Paris. Il y a les lois, Sophie Obadia, les règlements, pourquoi ne parvient-on pas à les faire appliquer ?
Parce que
je parle de la laïcité et de tenue correcte exigée à l'école.
Effectivement, nous savons que Gabriel Attal a voulu marquer les choses en disant pas de voile, pas d'abaya, pas de camis, mais dans la réalité pour les chefs d'établissement, c'est extrêmement compliqué et ça l'a toujours été. Ça l'a été depuis l'affaire de Dreux et ça continue à l'être, cet entrisme est là depuis des années. La première chose que je voudrais dire, c'est que les mots ont un sens. Et quand je lis à propos de cette affaire récente, donc qui est très grave, hein, qui est très très grave, il y a eu une altercation et donc le proviseur, finalement, après avoir été chassé en meute sur les réseaux sociaux, donne sa démission. Il n'y a pas d'altercation. Je ne comprends pas ce terme d'altercation. Il y a un proviseur qui dit à une jeune fille, vous enlevez votre voile. Ce n'est pas une altercation, c'est lui signifier la loi. Et en réalité, je crois qu'on a une difficulté maintenant, parce qu'on a laissé les choses pourrir sans aucun doute, à dire la loi. Et celui qui ose la dire a évidemment une charge qui pèse sur lui, qui est très forte. Parce que l'ensemble de la société ne dit pas la loi. ne dit pas la loi. C'est vrai que dans un lieu public, quand vous voyez une personne intégralement couverte, personne ne va lui dire « ça n'est pas possible ». Personne n'ose faire cette chose-là. Donc je pense qu'effectivement, la société devrait faire davantage corps avec ses enseignants et que la situation est extrêmement grave, même si, et on en parlera peut-être, la réponse judiciaire commence enfin à arriver, même si elle est encore un petit peu trouble, mais classement sans suite de la plainte de la jeune fille qui avait menti, qui a dit qu'il l'avait molesté, c'est faux. Il y a les cyberharceleurs qui ont été immédiatement interpellés. La difficulté, c'est qu'ils sont dans des départements différents et qu'il n'y a pas une seule et même procédure. Il y a l'État qui se joint à la plainte et qui va déposer plainte en dénonciation calomnieuse. Ça n'est pas rien, c'est la première fois. Donc enfin, j'ai envie de dire, la réponse judiciaire arrive. Mais avec quel retard ?
Et non, Jean-Marie Colomb,
mais tout est dit là parce que c'est
tout est
là,
dit.
Oui, parce que
pas
là,
tout.
Attendez, parce que l'État est là. On peut plus dire on met la poussière sous le tapis comme on entend dire ou bien
pas de vague.
Non, il y a tout le monde est mobilisé sur cette affaire et la justice s'est mise en mouvement. Mais en même temps, on a affaire à une réalité qui est très difficile à saisir parce que quand vous êtes dans une classe et que dans une classe il y a certains élèves qui refusent les enseignements, qui se disent choqués parce que vous montrez une image ou c'est là que ça se joue et c'est là que c'est difficile. Et ça, c'est une question d'imprégnation de la laïcité elle-même, et ça ne se résoudra qu'avec le temps, quand arriveront des générations qui auront été formées à cette laïcité. Parce que pour le moment, vous avez, pour nous, qui avons vécu et qui avons été en quelque sorte, si j'ose dire, baptisés dans cette laïcité. La laïcité, c'est une émancipation, c'est une garantie de la liberté de conscience. Pour d'autres, et notamment dans le monde anglo-saxon, mais pour ceux qui posent problème aujourd'hui, c'est une contrainte sur leur liberté. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à leur faire comprendre, c'est que la voie de l'émancipation passe par la laïcité. Mais c'est une affaire de plusieurs générations. C'est pas en claquant du doigt comme ça qu'on va résoudre le problème ou avec des slogans où le gouvernement fait pas ci, fait pas ça.
Avec de la fermeté.
L'État, pour le coup, a été là et la fermeté est là.
Oui. Vous parliez, Jean-Marie Colombani, de baptême et de laïcité. 7000 baptêmes en plus cette année, baptême d'adultes. Ça m'offre une transition pour vous dire au revoir en musique avec un extrait de La Passion selon Saint Jean, Bach. Elle sera diffusée ce soir en direct du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence sur Radio Classique. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous remercie.
Merci David.
Au revoir.